Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de ce nouveau numéro de Citoyen Magazine que nous avions envie de consacrer cette semaine aux grandes vacances. Nous sommes à quelques jours des grandes vacances et nous voulions faire le point sur la situation des centres de vacances, des associations qui gèrent ces vacances et les centres de loisirs, de connaître un petit peu leur situation en ce moment et de voir effectivement quel type d'offres elles peuvent proposer aux parents pour ces grandes vacances. Et nous sommes en compagnie de Nadine Fontenelle, qui est directrice de l'association des villages de Magenta. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Alexandre Dabin, qui est président de l'association des piroguiers du Mont d'Or. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Philippe Lepoul, qui est directeur de la culture, de la jeunesse et des sports de la province sud. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'avais envie de vous demander un petit panorama d'abord, un peu plus général, peut-être avec vous, Philippe Lepoul. Comment se passe la fréquentation des centres de vacances? Quels sont les chiffres que vous avez avec vous?
Alors, en ce qui concerne donc la fréquentation des centres de vacances et de loisirs, hein, il faut bien différencier les deux. Hein. Les centres de vacances donc sont des centres avec des nuitées et les centres de loisirs sont des centres à la journée. Donc on est sorti quand même sur l'année 2022 de la période de crise sanitaire post-Covid et donc on a progressivement retrouvé donc des activités, on va dire périscolaires, à peu près normales. Alors je parle sous couvert bien sûr à la fois des Piruviers du Mont d'Or et de l'association Les Villages de Magenta qui sont là. Sur les petites vacances, on constate quand même une fréquentation qui est à peu près identique de ce que l'on avait pu connaître avant le Covid. Par contre, c'est vrai que sur les grandes vacances, on constate, enfin les premiers constats que l'on a sur les inscriptions font apparaître quand même une baisse de fréquentation, mais bien sûr sous couvert des associations qui sont ici présentes.
Alors Alexandre Dabin, par exemple, pour l'association Les Piroguiers du Mont d'Or, comment elle se présente, ces grandes vacances?
Eh bien, pour le moment, on peut dire qu'on est satisfait parce que, en général, les journées de décembre sont pas trop fournies, mais par rapport aux derniers chiffres que j'ai reçus ce matin, on remplit correctement et je pense que on pourra proposer des centres avec un effectif supérieur à la normale, au moins déjà pour décembre.
Nadine Fontenelle, même question, comment ça se présente?
Alors, je dirais un peu moyen. Mmh. Nous, on propose beaucoup d'activités, plusieurs centres de loisirs et environ une quinzaine de colos. Alors, sur les colonies, bien sûr, comme sont des places très limitées, il y a les places d'avion pour aller aux îles ou l'Australie, par exemple, où c'est complet depuis très longtemps. Et puis des places sur les colos qui sont limitées. Donc là, les parents réservent et viennent faire les inscriptions dans les temps et à l'avance. Par contre, sur les centres de loisirs, et ça, on le constate depuis, on va dire, peut-être 2-3 ans, un petit peu carrément de la dernière minute. Donc on vient au dernier moment. Expliquer les raisons, je pense qu'il doit y avoir plusieurs raisons. Mais bon, j'ai pas fait des statistiques particulières là-dessus. C'est principalement le manque de pièces, nous disent certains parents, parce que même avec des aides qui sont très importantes pour les familles en Nouvelle-Calédonie, que ce soit les boursiers Province Sud, les bons CAFAT, le CCAS de Nouméa notamment, on attend la paye du mois de décembre, qui peut arriver jusqu'au 10, puis la priorité aussi, il y a Noël. Donc globalement, oui, Noël et jour de l'an se remplissent plutôt bien. Après, dans le courant du mois de janvier, peut-être que ce sera au dernier moment, mais on voit bien, on sent bien et on a bien compris que beaucoup de nos parents se sont beaucoup privés pendant 3 ans. Mmh. Et ne sont pas partis, même pour pas aller trop loin. Mais beaucoup de parents quittent le territoire. Bon, c'est un certain public, je reconnais, volontiers. Mais comme nous, on a une mixité sociale assez importante, on a constaté quand même que nos parents habituels, beaucoup n'avaient pas quitté le territoire depuis 3 ans et ont ou vont quitter le territoire. Alors dire ça, le manque d'argent, que aussi un fait de société, les enfants sont beaucoup plus autonomes, plus jeunes... Mmh. Le problème aussi des familles monoparentales, des gardes alternées, donc un parent veut bien inscrire, donc souvent c'est une semaine sur deux, mais pas la deuxième semaine. Et puis, on va confier plus facilement la clé de la maison à l'enfant, parce qu'il a les jeux vidéo, il a Internet. Très tôt, après, il y a le booster, et puis peut-être, pour un public plus aisé, la voiturette, ce qui fait qu'il y a un peu moins de grands, on va dire, qui fréquentent nos centres. Par contre, c'est vrai que le public maternel est très, très, très important.
Est-ce que cette situation qu'on connaît tous, hein, de hausse des prix, d'inflation, effectivement, ça peut avoir une influence sur le choix des parents qui disent, on va faire attention, on va peut-être renier un peu sur les vacances des enfants, Philippe Lepoul?
Oui, très certainement, hein, bien sûr. L'aspect financier joue toujours un rôle majeur dans les familles. Après, c'est à nous aussi, quand je dis nous, à la fois, bien sûr, la collectivité provinciale, même si on le fait, nous, à travers l'information, la communication, les dispositifs comme le dispositif Carrefour Vacances, mais aussi aux associations socio-éducatifs qui portent les centres. C'est à nous de communiquer aussi sur la valeur et l'intérêt de ces centres, que ce soit en matière d'éducation, en matière de citoyenneté. Je veux dire, les associations socio-éducatives, et c'est peut-être pas assez dit, ou peut-être l'information n'est pas assez forte là-dessus, jouent un rôle essentiel d'un point de vue aujourd'hui de la construction sociale, de l'éveil des enfants, de la connaissance de l'autre, à travers le type d'activité qu'ils mettent en place, à travers la dynamique qu'ils mettent en place sur l'éducation qu'on appelle l'éducation non formelle. Nous, au niveau de la collectivité de la province sud, on essaye aussi de pouvoir les accompagner au mieux ou de développer des actions comme, par exemple, la découverte des culturels, l'épanouissement des jeunes à travers des intervenants de qualité. Je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, bien informer les parents sur tout ce que proposent ces structures pour l'éducation des jeunes.
Alexandre Dabin, c'est important ce que vient de dire Philippe Lepoul. Sur les valeurs, il y a aussi un apprentissage de la vie en communauté. Il y a toutes ces valeurs-là dans les centres de vacances, les centres de loisirs.
C'est certain que ces valeurs doivent toujours être véhiculées aussi bien par les familles, par l'école, mais aussi par les associations qui organisent les centres de vacances. Et on parlait tout à l'heure des difficultés financières que peuvent rencontrer certaines familles. C'est pour ça que nous, au niveau de l'association, nous avons privilégié ne pas augmenter les tarifs, parce que tout augmente. Mais là, on a décidé que pour notre saison 2022-2023, de rester au tarif normal, même si les coûts de transport augmentent, même si le coût des fournitures augmente. Il y a beaucoup de choses qui augmentent. Mais nous avons décidé de privilégier avant tout l'accueil des enfants. Et comme le disait si bien Philippe tout à l'heure, c'est que ce qui peut être apporté par les centres de vacances n'est pas obligatoirement apporté à droite et à gauche. Quand je pense l'école, quand je pense tout à l'heure, je parlais aussi des familles. Et l'accueil des boursiers est quand même quelque chose de primordial, parce que une certaine catégorie de la population calédonienne est quand même aidée par les institutions et aussi aidée par les centres de vacances. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque nous, associations, nous prenons un enfant qui est boursier, nous savons que nous n'allons pas être payés tout de suite. C'est à peine, je dirais, c'est même pas pour nous, c'est même pas 10% du prix qui est demandé à la famille. Quelquefois, c'est du 5, 8%. Donc, cela veut dire que nous, sur nos fonds propres, nous devons organiser les centres de vacances, payer les fournisseurs, payer le transport, payer les animateurs. Et c'est vrai que cet argent n'arrivera que beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Cette année, il n'y a pas d'avance. Les années auparavant, la province nous donnait une avance. Donc, cette année, pas d'avance. Donc, il va falloir que nous, on puisse permettre toujours, comme on le fait depuis 52 ans, parce que ça fait notre 52e saison que les Pirogues du Mont-d'Or organisent des centres de vacances. Donc, il va falloir aussi prévoir, on a prévu ce qu'il fallait pour attendre les aides de la province, parce que il faut accueillir les boursiers qui vivent quelquefois dans des quartiers difficiles. Il faut les accueillir et aussi il faut trouver les moyens de les faire venir. Et les faire venir, c'est pas toujours facile. Comme le disait Nadine, on a la tablette à la maison, revenir sur des règles. On sort de l'école, il y a des règles à l'école. On va en centre de vacances, il y a des règles. Et c'est très, très difficile aussi pour ces jeunes de revenir sur des règles.
Nadine Fontaine, votre avis là-dessus?
Oui, moi je voudrais revenir sur le choix des parents également avec son enfant normalement. Il y a une immense confusion pour les parents dans tout ce qui est proposé. Moi, je voudrais que ce soit clair et que l'on explique qu'il y a plusieurs formes de structures. Il y a nos structures qui sont déclarées, habilitées. On a un projet éducatif ou un projet associatif validé par le service de Philippe Le Poul dans le cadre de la 9CP. Ce sont des obligations réglementaires extrêmement carrées. Mais grâce à Dieu, oui, moi j'ai 5 enfants et j'étais bien contente que mes enfants soient dans des structures où il y a une réglementation très carrée. Mais dans la tête des parents, il y a beaucoup de confusion. Moi par exemple, quand on m'appelle ou quand on me passe un mail en me disant « je voudrais inscrire au stage, je sais pas, apéro » ou... Mais madame, vous devez vous tromper, il n'y a pas de stage, c'est nous. Il y aura un centre de loisirs. Donc je retoque déjà sur le mot. Alors il y a nous, les associations déclarées, finalisées, on répond à un projet, bref, et souvent de grandes fédérations, puisqu'on est rattaché la plupart à des grandes unions ou fédérations de tutelle. Il y a les clubs sportifs. C'est vrai qu'en ce moment, ça pullule de tous les côtés qui montrent des centres de loisirs. Je dis au passage que le centre de loisirs, la terminologie n'a pas le droit d'être utilisée. Ce sont pour les associations déclarées habilitées par la province. Il y a et ils ont le droit d'exister parce qu'en plus ils font plutôt du bon boulot. Mais il y a beaucoup aussi d'entreprises commerciales privées qui vont faire du sport, qui vont faire des activités culturelles, mais de tout, je pourrais vous en nommer moult. Et dans la tête des parents, eh bien, c'est pas clair. C'est eux, ils achètent de la consommation d'activité, les parents. Ils vont faire quoi? Là, de plus en plus, ils vont faire quoi? Bah, écoutez, les équipes sont en train de se réunir. Globalement, il y a une thématique. Globalement, ils vont aller à la piscine. Globalement, il y aura des intervenants de la province. Mais laissez la place à l'animateur d'animer, donner vie à ce temps de vie dans la continuité éducative de la famille et de l'école. C'est un temps énorme, très précieux, qui est 3 fois plus que l'école et la maison. Donc non, on n'est pas dans un stage de consommation d'activité. Et ça, c'est assez complexe à faire comprendre. Et je pense que dans la tête des parents, il y a beaucoup de confusion sur les services proposés. Nous, on n'est pas sur ce champ commercial.
Philippe Le Poul, c'est important ce que vient de dire Nadine Fontenelle. Il y a une réglementation qui est quand même extrêmement stricte, on est bien d'accord.
Oui, tout à fait. Donc, elle a été citée tout à l'heure. Il y a une délibération pays, c'est une délibération de Nouvelle-Calédonie, la 9CP, qui justement prévoit les conditions d'encadrement donc des enfants, qui sont quand même majoritairement des mineurs, et donc qui précise comment l'accueil de ces mineurs doit être fait en matière de réglementation, de sécurité, d'hygiène. Et c'est vrai que pour les parents qui inscrivent donc leurs enfants dans ces structures, c'est un gage de qualité, on va dire, à la fois morale, de qualité éducative. Et comme l'a dit Nadine, ces structures, elles s'engagent dans un projet pédagogique. Alors, ça veut dire quoi, un projet pédagogique? Ça veut dire que derrière, les activités qui sont proposées, qui peuvent être des activités sportives, des activités socio-éducatives, des activités culturelles, elles s'inscrivent dans un objectif précis de développement de l'enfant, d'épanouissement de l'enfant. Elles ne sont pas prévues comme ça de manière aléatoire. Il faut bien comprendre, et les parents, ils doivent le comprendre, ça, c'est à un moment donné, lorsqu'ils inscrivent leurs enfants dans ce type de structure, ils inscrivent leurs enfants dans une organisation qui a pensé l'accueil de l'enfant autour d'objectifs éducatifs.
Et surtout qui est géré par des professionnels, parce que ce que vient de dire Philippe Le Poul, ça pose évidemment la question de l'encadrement, de la qualité de l'encadrement.
Mais il y a la qualité, Alexandre, de l'encadrement, mais il y a aussi le projet pédagogique qui a un rôle tout à fait fondamental dans l'organisation des centres de vacances. Par exemple, nous, depuis 2 ans, nous travaillons sur un projet pédagogique à l'année. Et comme les enfants n'ont pas pu vraiment voyager les années précédentes, on était parti sur un voyage autour du monde, en passant par des endroits qui ne sont pas vraiment connus du public. Nous, on va commencer par la Laponie parce que c'est le pays du Père Noël. Mais après, on va descendre sur Malte, on va aller en Éthiopie, on va aller au Pérou, on va monter au Canada, etc. Donc vraiment, on a réfléchi à quelque chose qui va être un lien tout au long de notre saison, jusqu'à octobre 2023. Et les pirogues du Mont d'Or, naturellement, ils voyagent en pirogue. Donc on a deux petits jeunes qui vont partir à travers le monde, et on va essayer de faire vivre ce voyage tout au long de la saison, et en espérant que les enfants vont s'identifier à Keanu et Olin qui vont partir à la barre de leur pirogue, et qui vont les amener un petit peu à travers le monde. Donc c'est vrai, c'était vraiment dire qu'est-ce que nous pouvons faire cette année où il n'y a plus de Covid, mais on sait quand même que les difficultés financières font qu'un certain nombre d'enfants, ne partira pas en centre de vacances. Donc c'est ça. Nous, on va essayer de les faire voyager à travers cette pirogue avec nos deux petits camarades.
Nadine.
Alors moi, je dirais, je ne sais pas lequel a copié sur l'autre. On va pas entrer en guerre, Alexandre, mais on a le même projet. Alors c'est un fil rouge, bien entendu. Notre projet associatif, comme l'a dit Philippe, bien sûr, c'est les valeurs humaines, le partage, l'acceptation de la différence, l'acceptation quelquefois des contraintes, gérer sa frustration. Tout ça, c'est penser, c'est travailler avec des jeunes animateurs qui n'ont que le BAFA, je répète bien aux parents, nous ne sommes pas psys, parce que quelquefois on peut passer pour des psys, mais effectivement, la thématique donne un fil rouge, guide, et à travers ça, bien sûr, des valeurs humaines vont transpirer. Donc on a aussi le voyage autour du monde en 40 jours, ça s'appelle, sur notre guide, n'est-ce pas ? Et effectivement, on verra le côté culturel, les spécialités culinaires, le drapeau du pays, le principal monument du pays. Bon, bref, on aura un petit fil rouge. Ça ne veut pas dire qu'on... Oui, effectivement, on fera le tour du monde virtuel. Mais effectivement, mais derrière, c'est surtout d'apprendre à vivre ensemble. Et dans notre pays, c'est fondamental, comme tu dis, c'est fondamental à vivre, apprendre à vivre ensemble, à partager la tente, à partager la case, j'allais dire à partager le mauvais temps, à tout partager. Donc c'est vrai que nous aussi, on a rogné sur les crédits. Bon, l'association est saine, on n'a pas 52 ans, nous c'est... Dis donc, c'est juste à l'inverse. Nous, on vient de fêter nos 25 ans, on va inverser les chiffres du gâteau d'anniversaire. Donc effectivement, on a pu asseoir, sérieusement, nos fonds de roulement, même si, comme dit Alexandre, on doit attendre longtemps, ça a tendance quand même à raccourcir. Je veux pas tirer à boulet rouge sur les délais, mais c'est vrai que ça peut être critique de temps en temps, mais on va dire que ça s'améliore par rapport à quelques années. Mais c'est vrai que aussi que ça va devenir compliqué par l'augmentation des tarifs, effectivement. Alors nous, je vais pas dire sur quoi on a rogné, parce qu'on va dire « Oh là là !» Mais nous, pour arriver à maintenir un tarif... par exemple, les centres de loisirs, on a augmenté de 1000 francs parce que les repas ont augmenté, tout a augmenté. Mais les colos sont restés pratiquement tout au même prix. Et on va rogner sur certains trucs. Et je suis persuadée que ni les enfants, ni les familles ne vont s'en rendre compte. Mais il y aura toujours l'encadrement parce qu'il y a une réglementation qui nous cadre effectivement l'encadrement des enfants. On devra rogner, mais pendant combien de temps allons-nous rogner sur les tarifs ? Les parents ont de moins en moins d'argent. Nous, on dépense de plus en plus. Donc l'alternative des dépenses de transport, c'est que nous avons nos propres véhicules. Mais il faut les entretenir. L'essence est très chère. On a augmenté, de 80% les dépenses d'essence. Donc, ça reste encore moins cher que de louer. Mais moi, je tire un peu la sonnette d'alarme. Ça va devenir compliqué. On n'est qu'un petit pays. On n'est que 275 000 et pullule de tous les côtés, des associations. Peut-être il y en a certaines qui ne tiendront pas la route longtemps, parce que s'ils pensent soit gagner beaucoup d'argent ou tirer des gros salaires, je pense qu'ils se trompent. Parce que dans notre secteur, les gratifications des animateurs, bien sûr, tout le monde a besoin de pièces pour Noël, pour manger, pour véhiculer. Mais honnêtement, on va pas être riche d'argent qui tombe dans la poche. Par contre, on va être très riche des relations humaines, de l'enseignement par les autres, l'éducation informelle qu'on appelle l'éducation populaire.
Je voudrais revenir justement à cette question que je vous posais tout à l'heure sur la qualité de l'encadrement. Comment est-ce qu'elle est contrôlée, Philippe Lepoule ? Comment ça se passe, le recrutement des animateurs, de ceux qui encadrent justement ces mineurs ?
Alors, il y a deux questions dans votre question. Alors, si vous me permettez, je vais revenir dessus, mais c'est vrai que c'est un point qui est ressorti deux fois. Alors, au niveau de, c'est vrai que au niveau de la province sud, on va essayer aussi de faire en sorte justement que entre guillemets le versement des indemnités soit fait le plus rapidement possible aussi pour les structures. On s'est organisé aussi en interne pour accélérer le versement. De la même manière. Il y a un point essentiel, c'est l'accueil de en fait des centres de vacances et de loisirs. Et ça, c'est le rôle aussi nous qu'on peut avoir en termes de collectivité publique, nous au niveau de la Promas Sud, mais pas que. Bon, voilà, nous on a ouvert par exemple le centre des activités nautiques au centre de vacances, c'était pas le cas avant. Le château Hagen au centre de loisirs, mais voilà, tous autant que nous sommes, que ce soit nous, mais aussi les communes, on se doit de pouvoir aussi trouver des solutions pour pouvoir favoriser l'accueil de ces centres de vacances ou de loisirs, parce qu'on sait que c'est pas évident pour ces structures de trouver donc des structures permanentes d'accueil. S'agissant de votre question relative au contrôle, donc les contrôles des centres de vacances et de loisirs est une compétence de la Nouvelle-Calédonie qui s'exerce dans le cadre de la délibération 9CP. Et donc, il y a deux provinces qui exercent cette compétence pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, donc la province Nord et la province Sud. Et donc, nous avons des agents qui contrôlent les centres de vacances pendant les petites vacances et les grandes vacances. Alors, contrôler un centre, c'est quoi ? Ben, c'est vérifier à ce que ce centre réponde aux exigences de la délibération, celle que l'on a citée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un projet pédagogique ? Est-ce que c'est un vrai projet pédagogique ? Est-ce que, d'un point de vue éducatif, comment est organisé le centre ? Est-ce que les personnes qui interviennent dans ce centre ont bien les qualifications exigées ? En ce qui concerne l'organisation de la sécurité des enfants, est-ce que celle-ci est en place ? Voilà, c'est vraiment de vérifier. Et en plus, donc, nous avons augmenté, nous, le nombre de contrôles. Hein, et nous avons décidé aussi, parallèlement à ces contrôles, donc à partir de l'été prochain, d'avoir aussi des phases à la fois d'accompagnement, parce que contrôler, c'est bien, mais les centres, ils ont aussi besoin, à certains moments, d'un accompagnement, peut-être un accompagnement technique, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc il faut être capable d'agir des deux côtés, à la fois sur la co-construction et puis, bien sûr, sur l'aspect contrôle.
Nadine Fontaine, est-ce que c'est des questions que vous avez, ça, quand les parents vous amènent leurs enfants sur la qualité de l'encadrement, sur la sécurité, sur la qualité des formats, la formation des animateurs ?
Ben, je devrais dire, c'est la première question qu'ils posent. C'est la première question, puisqu'il y a eu quand même un gros incident l'été dernier, que je ne rappellerai pas. Et donc, c'est, je pense, tous les jours qu'on nous pose la question. Alors, voilà, donc, il y a les formations. Il y a nos accompagnements sur le terrain. Il y a l'accompagnement de, notamment dans les contrôles de la province. Moi, je devrais dire, malheureusement, que le risque zéro n'existe pas, même en mettant des barrières de tous les côtés, physiques et morales et affectives. Le risque zéro n'existe pas. Nous, c'est une période là où on commence à être dans nos tout petits souliers. Je peux affirmer aux parents que nos animateurs ont un certificat médical comme quoi ils sont aptes à l'encadrement. Ils ont un extrait de casier judiciaire, le volet 3. Nous les formons. Nous avons une grosse réunion des directeurs demain où je pense que c'est la première chose que je vais aborder. Je leur demande de se surveiller entre eux. C'est quand même, voilà, c'est d'être vigilant entre eux. De façon, une des premières choses que l'on dit en formation, ne vous trouvez jamais seul avec un enfant. Jamais. C'est soit il y a plusieurs enfants, soit il y a des animateurs. Donc oui, alors c'est Au début, ça a été beaucoup la sécurité physique. Oui, est-ce que par rapport à la mère, par rapport, est-ce que je peux lui mettre des petits brassards, voilà, c'était la sécurité physique. Depuis quelque temps et depuis cette année, c'est la bonne moralité des animateurs. Oui, ça nous a beaucoup perturbés et ça fait poser des questions aux parents, que je suis d'ailleurs. Parce que je suis aussi maman, je l'ai déjà dit, et je suis aussi grand-mère de plusieurs petits-enfants. Donc oui, on peut, et eux posent la question. Et je voudrais compléter aussi, tant que j'ai la parole, parce qu'après on arrivera à la fin, que la province Sud, le service de Philippe Lepoule s'est engagé avec plusieurs associations à une certification des séjours. Donc c'est un travail depuis 2-3 ans sur le référentiel auquel j'ai beaucoup participé avec la province. Et donc nous sommes dans les phases de mise en route, on va dire, pour faire simple, avec la formation des auditeurs. Déjà, on est deux à avoir fait la formation des auditeurs. On a commencé à faire les audits coachés, puisqu'on est coaché par un auditeur, enfin un formateur de l'Institut de la Qualité. Et on est dans la phase des audits à blanc pour avoir, on va dire, à partir peut-être du mois de mai, quand on aura répondu à tous les engagements, il y en a plus de 150, sur la qualité de nos accueils, quand on aura répondu qu'on aura tout conforme, après il y a certains engagements qui ne portent pas à conséquence, pour l'accueil, la sécurité, la bonne moralité, on aura un petit délai pour se mettre dans les clous, on va dire. Mais il est prévu, effectivement, avec les normes AFNOR Pacifique, que les associations comme la nôtre, que ce soit au niveau de l'administratif, puisqu'on vient d'avoir un audit à l'administratif, mais sur le terrain, on en a déjà eu 3 et on en aura cet été, on s'engage à répondre à tous les critères. Alors, c'est très chronophage, ça nous prend beaucoup de temps, c'est pas simple, c'est complexe, et ça coûte très cher. Merci Philippe pour l'aide de la province, si tant est qu'il risque d'y en avoir un peu.
Philippe Lepoule,
c'est un message subliminal.
Quel est le rôle de la province Sud exactement? Parce qu'on a, le sentiment, en écoutant Nadine Fontenelle, que c'est extrêmement réglementé. Est-ce que c'est trop réglementé? Pas assez? Est-ce que le contrôle doit revenir plus à la Nouvelle-Calédonie, dont c'est la compétence? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, quand on parle de contrôle, ben voilà, l'intervention de Nadine, c'est encore mieux quand c'est les associations qui en parlent du rôle de la collectivité provinciale de la province Sud. C'est vrai qu'on s'est engagé dans cette démarche avec les associations. Ça fait maintenant 3-4 ans. Il y a eu un travail énorme qui a été fait par ces associations. Et donc, je reviens sur justement la qualité humaine qui existe au sein de ces associations, parce que je peux vous dire, de travailler dans le cadre de cet institut de la qualité, c'est un travail énorme, énorme interne. Mais donc, c'est aussi des structures qui acceptent de se regarder, le travail qu'elles font au quotidien et de se dire, eh bien, le CVL de demain, ce sera quoi le CVL de demain? Et s'engager dans le fameux CVL de demain pour répondre à la fois aux attentes
des familles. Le centre de vacances et de loisirs.
Oui, au centre de vacances et de loisirs, excusez-moi, pour répondre à la fois aux attentes des familles et puis bien sûr, surtout des enfants. Après, sur la partie que vous avez évoquée, qu'est-ce qu'on appelle, nous, la partie un peu régalienne de contrôle, oui, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie et c'est bien parce que les enfants, ils n'ont pas de frontières. Hein, donc, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un regard pays et un travail pays qui soit fait et s'il est même essentiel au regard des enjeux. Au cours de notre échange, on a évoqué beaucoup d'enjeux, des enjeux de sécurité, des enjeux moraux, des enjeux de valeur, des enjeux éducatifs, des enjeux de citoyenneté. Et derrière, des enjeux, du coup, de responsabilité. Donc, à un moment donné, quand les parents placent leur enfant dans un centre de vacances ou de loisirs, ils s'attendent à ce que derrière, il y ait une vraie responsabilité au plus haut niveau. Donc, il faut vraiment que... l'action menée par les pouvoirs publics en termes de politique publique par rapport à ces centres de vacances et de loisirs soit au cœur des politiques publiques. C'est une action majeure.
Alexandre Dabin.
On parlait de responsabilité et c'est sûr que actuellement un président d'association, le président que je suis, je dois veiller à vraiment à faire en sorte que tout se passe dans les règles. Je suis responsable devant la loi. s'il arrive quoi que ce soit. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je suis bénévole, j'ai un métier à part, et c'est vrai que cette responsabilité, je l'engage 365 jours sur 365 jours, parce que nous avons nos propres locaux, nous avons un personnel, mais nous accueillons régulièrement des enfants en centre de vacances. Donc nous devons veiller premièrement à la sécurité de nos installations. Donc on a des contrôles Veritas qui se font tous les ans, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Tout ça a un coût. On doit veiller à ce qu'il n'y ait pas un trou dans la barrière. On doit veiller à ce que tout notre matériel nautique soit toujours dans les clous. Et on doit aussi veiller à la probité de nos animateurs et directeurs. Donc là, c'est vraiment un contrôle très, très important. Et c'est pour cela que j'ai privilégié depuis plusieurs années à un petit peu multiplier le personnel, quitte à avoir des fois deux directeurs, un directeur à plein temps et un directeur adjoint, parce que ce directeur adjoint a aussi un rôle prépondérant dans le suivi des activités menées par les animateurs et dans le suivi des animateurs et animatrices. Hein, n'oublions pas que n'importe quoi peut se passer, donc on doit être hyper vigilant, parce qu'une fois que la chose est faite, on ne revient plus en arrière. Et on est vraiment embêté quand quelque chose se passe. Embêté peut-être par la loi, mais embêté aussi moralement, parce que on nous a mis des enfants, on a eu confiance en l'association, et quand il arrive quelque chose de grave, eh ben il faut trouver des solutions, il faut accompagner les familles, il faut aussi dire les choses. Il y a pas dans l'animation, c'est pas un pays de non-dits. Dans l'animation, s'il y a quelque chose qui s'est passé, il faut en parler. Parce que un jour ou l'autre, ça revient au visage, ça revient à la connaissance des gens, et c'est aussi la valeur de l'association. C'est à travers la vérité que l'on peut dire, la vérité qui existe, c'est la valeur de l'association. Cette association que j'ai repris depuis 10 ans et qui est à ses 52 années. Donc c'est vrai que l'image de l'association a une place aussi très importante.
Nadine Fontenelle.
Je voudrais bien préciser une chose, si je peux te rassurer un peu. Je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais pour rassurer aussi les parents, je crois que le différentiel avec les accidents domestiques, c'est chez nous, quand il y a un incident, c'est 1 pour 1000. Pour 1000 accidents domestiques, on peut avoir un pet, ça peut être anodin comme ça peut être grave, effectivement, mais... Rassurons les parents en disant qu'on fait tellement attention, mais ce que je disais au début, c'est le risque zéro n'existe pas. Et je voudrais revenir sur l'engagement et le bénévolat, bien entendu. Et nous, on a joué le jeu de salariés, la plupart de nos directeurs. Donc moi, je voudrais venir toujours à parler franchement des difficultés financières que rencontrent les associations. Parce que quand on salarie, on paye des... charges sociales. Et elles sont extrêmement élevées pour nous. Or, nous réclamons depuis presque 3 ans qu'on nous écoute à tous les niveaux, notamment au niveau de la province, du gouvernement, où il faudrait peut-être à un moment étudier les conditions de nos associations. On a l'impression de ne pas être trop considérés quelquefois et d'être même un petit brin lâché. On a des charges sociales très importantes, mais on joue le jeu de salariés. On n'a pas de faux patentés chez nous. On n'a pas des gens qui sont payés à la petite semaine et au noir. Non, ils sont déclarés, ils ont un contrat de travail, ils ont une fiche de paye. Ce n'est pas le cas de tous. Et donc, on voudrait bien être entendu à un moment. Alors là, je parle pas... Je sais qu'il y a 2 associations qui sont montées au créneau avec nous, avec les villages. Moi, je veux pas parler au nom de tout le monde. Mais il faudra peut-être réfléchir à un moment si on pourrait être considéré comme les... Par exemple... les crèches et les garderies, où je sais qu'il y a aussi les agriculteurs qui ont des allègements de charges sociales. Est-ce qu'à un moment, on pourrait être considéré? Sinon, on va dériver vers des faux travailleurs, des faux patentés. Quand on travaille que pour un employeur, on ne peut pas être patenté. C'est pas possible. Or, c'est ce qui se passe actuellement. Et puis après, on prend des gens qui sont dans une précarité énorme. On va les gratifier, puisqu'il y a une loi de pays à laquelle j'ai beaucoup participé, et qui, avec Valentine Rissouquet et d'autres, je n'étais pas toute seule, bien sûr, mais j'ai été très active dans cette loi de pays, qui est très souple et qui a enfin, au bout de 20-30 ans, donné un cadre juridique à nos animateurs, nos directeurs et nos formateurs. Le cadre est, est souple, mais effectivement, c'est, j'allais dire, j'aime pas dire c'est le mot de la lutte de tous les jours, mais on voudrait qu'on nous écoute, qu'on nous entende et qu'on puisse parler. J'ai fait remonter des dossiers de tous les côtés et donc de temps en temps, il y a des petites ébauches de discussion. Enfin, ce dossier a abouti en 2018, c'était très important. Moi, je voudrais que la cause des associations d'éducation populaire comme la nôtre, et il y en a quelques-unes sur le territoire, et qui font du bon travail, qui sont dans les clous. Je dis dans les clous, c'est qu'on respecte la 9CP, donc la délibération, et qui est pas n'importe quoi. Nous, on a de gros contrôles, c'est pas toujours drôle à vivre, on le ressent comme de l'intrusion, comme du flicage quelquefois. C'est très dur à vivre, mais c'est salvateur pour tout le monde. On met le directeur face à ses responsabilités, et à travers le directeur, l'organisateur, face à ses responsabilités, et tout ça pour rassurer les parents. J'espère vraiment qu'il y a beaucoup de parents qui nous entendent aujourd'hui, ou ceux qui nous ont entendus répéteront bien à leurs voisins, leurs amis et leurs familles les propos qui ont été tenus, que nous sommes des gens responsables. On sait ce que l'on fait quand on nous confie un enfant, je le dis toujours, c'est ce qu'on a de plus cher au monde, c'est la prunelle de ses yeux. Alors au passage, ben moi je remercie vraiment les parents pour la confiance. Je commence toujours mes courriers ou mes petits discours. On aura demain une grosse réunion avec les parents, qui est ouverte à tous les parents qui ont inscrit et même les autres. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Et surtout, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais peut-être que je pourrais dire ce qu'on fait cet été. Mais je voudrais vraiment remercier et féliciter et encourager les salariés comme les bénévoles qui se démènent sans compter et sans compter leurs heures. Et on ne va pas dire qu'on a des salaires de ministre. Donc moi, merci aux parents, merci aux salariés, aux bénévoles qui sont au plus proche de nous pour essayer le plus possible. Je touche du bois, hein, le bureau est en bois. Et que, que les enfants passent de bonnes vacances. Nous ne serons pas en vacances. Nous serons sur le grill.
Merci. Je voudrais qu'on dise un mot. Où est-ce qu'on peut trouver le programme de tout ce qui peut éventuellement intéresser les parents? Est-ce qu'il y a un guide? Est-ce qu'il y a quelque chose?
Oui, tout à fait. Il y a un guide. Hein, donc sur le site internet de la province sud, vous pouvez retrouver.
Où il y a beaucoup d'erreurs. Où je demande qu'il y ait des corrections de faites depuis presque 15 jours, 3 semaines. Donc je voudrais bien qu'il y ait des corrections parce qu'il y a des erreurs. Donc les parents nous ont fait remonter effectivement quelques erreurs.
Donc les programmes, on peut les trouver
sur le site des Pirogues du Mont d'Or. Il nous reste de la place dans la pirogue. Et j'invite tous les parents à trouver de la place sur cette pirogue et de voyager avec Éoline et Kainou à travers le monde pour ces grandes vacances avec notre équipe qui est performante.
Et nous aussi, donc le site Les Villages de Magenta. .asso.nc, le téléphone 254 054. Sur le site, il y a un guide qui est téléchargeable, et donc et les parents n'hésitent pas à nous appeler s'ils ont besoin d'un quelconque renseignement, ou comme je le dis, le guide est à destination des parents inquiets et des enfants curieux, ou l'inverse.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour ce magazine citoyen qui sera disponible d'ici quelques petites minutes en réécoute audio sur notre site internet rb.nc. Je vous souhaite une belle après-midi sur Radio Rythme Bleu. Je vous dis rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Citoyens. Belle après-midi.